Le message que je voudrais vous apporter ce soir a pour titre Comment manifester et contrôler le don de prophétie. Je répète, comment manifester et contrôler le don de prophétie. Dieu a donné à l'Église un merveilleux don, n'est-ce pas vrai? Et l'apôtre lui-même a dit, je désire que tous vous prophétisiez. Et déjà Moïse dans l'Ancien Testament disait, puisse tout le peuple prophétiser. Alléluia. Il y a une puissance extraordinaire dans le don de prophétie. Il y a aussi bien sûr des dangers. Toute bénédiction a aussi son côté de responsabilité, de protection. Et ce soir, c'est ce que nous allons voir. Selon les Écritures, comment manifester et contrôler le don de prophétie afin que nos vies et ceux qui exercent ce don puissent être richement bénis et être en bénédiction aux autres. Alléluia. Comme introduction, nous allons lire deux passages dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est le passage classique, mais nous allons le lire maintenant. 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons les cinq premiers versets. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. N'est-ce pas extraordinaire, cela? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Notez bien ces trois choses-là. Nous allons y revenir plus tard, mais le but de la prophétie est d'édifier, d'exhorter et de consoler. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Toujours au chapitre 14, les versets 29 à 31 maintenant. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et que les autres jugent, avez-vous remarqué? Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits, voyez-vous, et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Un deuxième passage maintenant dans l'épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 20 et 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Je relis ce verset. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il n'est pas dit retenez ce qui est mal. Certains sont spécialistes pour retenir ce qui est mal. À la suite d'une réunion, vous leur demandez comment ça va, ils vous sortent toujours quelque chose de négatif. La seule chose qu'ils ont retenue, c'est le mal. Et partout, ils vont comme ça. Vous comprenez, ils n'ont pas su retenir le bien qui est dans leur femme. Comme ils retiennent que le mal qui est justement dans leur femme, alors partout, ils voient du mal. L'apôtre met en garde contre deux choses. Pour que le don de prophétie aboutisse et réalise son objectif, il y avait comme deux extrêmes dans l'Église primitive. Dans l'Épître aux Corinthiens, vous l'avez lu avec moi, il est dit que plusieurs donc pouvaient prophétiser et que les autres jugent. Il semble que l'accent ici soit qu'on prophétisait beaucoup à Corinthe, mais que personne ne jugeait, et qu'on acceptait absolument tout. Quand quelqu'un prophétise, certains pensent qu'on doit accepter absolument tout à la lettre. Et qu'il ne doit pas y avoir de contrôle. C'est une grande erreur. Amen. Vous irez à la catastrophe si vous ne contrôlez pas. Il y a un contrôle. Et nous allons voir tout à l'heure comment contrôler. Quels sont les tests d'une véritable prophétie. Alors voyez-vous, à Corinthe, on acceptait tout. Et à Thessalonique, on avait la tendance de tout rejeter. C'était le contraire, parce que l'apôtre dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Alors, à Thessalonique, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais ils rejetaient tout. Ils méprisaient les prophéties. Et en méprisant les prophéties, qu'est-ce qu'il se passe, mes chers amis? Nous éteignons l'esprit. Voyez-vous, le danger de mépriser les prophéties, c'est que nous éteignons l'esprit. Et nous ne voulons pas, n'est-ce pas, que l'esprit s'éteigne au milieu de nous. Au contraire, nous voulons que l'esprit puisse brûler. Toujours et toujours plus, mais d'une flamme pure. Alléluia. Et il y a une puissance extraordinaire dans la prophétie. Mais malheureusement aussi, il y a une contrefaçon extraordinaire. C'est pourquoi j'aimerais que ensemble nous puissions nous fortifier et avoir des bonnes bases quant à la prophétie. Amen. Amen. Non pas pour éteindre le don, toujours en vue de canaliser ce don afin qu'il soit plus efficace. Alléluia. Nous n'allons pas tomber dans les extrêmes à dire, oh là là, puisque maintenant il y a eu un petit peu de quelque chose qui n'a pas été bien, allez, à partir de maintenant c'est terminé, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça que certains règlent les problèmes. Et puis d'autres, parce qu'ils ne savent pas comment contrôler, ils disent, bon ben, quand quelqu'un a prophétie, on accepte tout, ah ben, c'est des prophéties, qu'est-ce que c'est? Une prophétie. Il faut tout accepter. Non, nous devons avoir un équilibre. Vous êtes d'accord? Alléluia. Alors, j'aimerais vous donner d'abord brièvement ce que la prophétie n'est pas. Il est bon de voir un peu, d'abord, ce que la prophétie n'est pas. Il ne faut pas mettre sur le compte de la prophétie ce qui n'est pas une prophétie. La prophétie, premièrement, n'est pas de la prédiction. Vous entendez ce que je dis bien? dans la prophétie, il peut y avoir un élément de prédiction. Ça, j'en conviens, n'est-ce pas? Mais la prophétie, elle, en elle-même, la prophétie du Nouveau Testament, la prophétie biblique, n'a pas cet élément de prédiction. Et nous le voyons dans 1 Corinthiens 14-13 d'ailleurs, la véritable prophétie, elle édifie, exhorte et console. Donc celui qui a le don de prophétie, il doit réaliser, il doit comprendre que la prophétie a un but: édifier, exhorter et consoler. Il peut y avoir parfois un élément de prédiction, mais la vraie prophétie se cantonne à cela. Et maintenant, vous allez dire, mais il y a parfois des prédictions. Alors là, à ce moment-là, ce n'est plus un don de prophétie qui se manifeste. Alors, un prophète, lui, a des prédictions. Un prophète du Seigneur. Par exemple, dans Actes 21, 11, il est parlé du prophète Agabus. Agabus, Actes 21, 11, je lis ce verset maintenant. Afin que nous fassions bien la différence entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Vous avez bien compris cela? Parce que certains qui ont le don de prophétie se prennent pour des prophètes. Tu peux avoir un don de prophétie et ne pas être un prophète. Mais tu ne peux pas être un prophète sans le don de prophétie. Mais dans le ministère de prophète, il n'y a pas seulement le don de prophétie, il y a encore d'autres dons, bien sûr, d'autres dons de révélation, d'autres dons de connaissance. Mais voyons maintenant Actes 21, 11. Pour vous montrer là un ministère de prophète en action, voici ce qu'il est dit: comme nous allions au lieu de prière, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Vous remarquez ici, donc il y a une prédiction. Mais c'est un prophète qui parle. Et quand il y a un ministère de prophète, il y a de la prédiction. Mais j'aimerais bien sûr ce soir parler uniquement du don de prophétie. Alors dans le don de prophétie, il peut y avoir certains éléments de prédiction, mais c'est exclusivement édifier, exhorter et consoler. Donc, quelqu'un peut avoir le don de prophétie sans être un prophète. Il faut bien comprendre cela. C'est tout à fait deux choses. Et tous peuvent prophétiser, il est dit. Mais tous ne sont pas prophètes, vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des appels et des vocations précises. Mais quant au don de prophétie, tous peuvent prophétiser. Il n'y a pas de distinction. Comme tous peuvent parler en langue. Alléluia. Deuxièmement, la prophétie n'est pas la prédication. Certaines personnes pensent que la prophétie, c'est prêcher. Et quand ils prêchent l'évangile, pour eux, c'est le don de prophétie qui est en action. C'est une erreur. D'ailleurs, dans les deux mots grecs pour prêcher et prophétiser sont complètement différents. Ce ne sont pas les deux mêmes mots. C'est pourquoi prophétiser et prêcher sont deux choses différentes. Mais maintenant, dans la prédication, à un moment donné, il peut y avoir une inspiration prophétique. Quand vous prêchez et que tout à coup vous commencez à dire des choses que vous n'aviez jamais pensées, alors à ce moment-là, il y a un souffle prophétique qui se manifeste. Ou alors, dans la prière, combien d'entre vous, même sans vous en rendre compte, vous avez prophétisé. À un moment donné, vous commencez à dire des choses que vous n'aviez jamais pensées. C'est une prophétie qui s'est manifestée. C'est comme il est question de Caïphe. Vous savez, Caïphe, le souverain sacrificateur. Il est dit qu'il prophétisa au sujet de Jésus et il ne s'en rendait même pas compte. Souvent, nous prophétisons et nous ne nous en rendons pas compte. Je crois que c'est bien ainsi parfois. Il y en a qui sont un peu trop cons, trop, que j'allais dire, trop imbus d'eux-mêmes. Attention! Je vais commencer à prophétiser. Que tout le monde se tienne bien tranquille. Voyez-vous, dans la prédication, il peut y avoir un élément prophétique. Mais prêcher n'est pas prophétiser. Dans le témoignage aussi. Lorsque vous rendez témoignage parfois, tout à coup, il y a des paroles qui viennent, il y a comme une onction qui vient sur vous. Vous commencez à dire des mots que vous n'aviez pas préparés. et qui tombe exactement et qui correspond exactement aux besoins de la personne. À un moment donné, là, il y a qu'est-ce qui se passe? Il y a une onction prophétique qui est sur vous. Soit dans le témoignage, soit dans la prédication, soit dans la prière. Mais faisons bien la distinction, prêcher n'est pas prophétiser. Là, le prophétisme, le don de prophétie est une manifestation surnaturelle. C'est Dieu qui vous donne instantanément et surnaturellement sa pensée. Tandis que dans la prédication, vous devez vous préparer, n'est-ce pas vrai? Un prédicateur qui prêche, il doit se préparer. S'il ne prépare pas son message, alors ça n'ira pas du tout. Tandis que dans la prophétie, vous ne pouvez pas préparer vos prophéties. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y en a qui préparent leur prophétie à la maison et qui viennent ici à l'église pour dire la prophétie, c'est une drôle de prophétie celle-là. Donc ce n'est pas une prédiction. Deuxièmement, ce n'est pas une prédication. Et troisièmement, la prophétie n'est pas pour apporter une nouvelle doctrine. Notez bien ça, c'est très important. Parce que certains qui ont des dons de prophétie commencent à avoir des révélations un peu particulières. Et malheureusement, dans l'Église, il y a eu beaucoup de déviations à cause de cela. Parce que quelques-uns ont certains dons de prophétie ou autres. Alors, ont commencé à sortir de nouvelles doctrines. Le don de prophétie n'est jamais pour apporter de nouvelles doctrines. Voulez-vous une référence? 2 Timothée 2, versets 17 et 18. 2 Timothée 2, versets 17 et 18, l'apôtre Paul parle au sujet de deux personnes. « Évite les discours vains au verset 16 et profane, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la graine. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. » Voyez-vous, ils amènent une nouvelle doctrine, ceux-là. Alors comment ils ont eu cette nouvelle doctrine? Certainement qu'ils ont dû avoir une soi-disant révélation ou une soi-disant prophétie. Et combien de fausses doctrines ont commencé comme cela? Combien de sectes ont commencé comme cela? En disant, moi je viens d'avoir une révélation. Et à cause de cette révélation, on commence à apporter une nouvelle doctrine. La prophétie n'est jamais pour cela. Voyez-vous comme nous pouvons dévier? La vraie doctrine est quoi? Il y a les cinq colonnes de la vérité. Vous les savez, mes chers amis, les cinq colonnes du christianisme. Les cinq colonnes sont celles-ci. Vous devez les marquer dans votre cœur, dans votre tête, partout. Et là où il n'y a pas ces cinq colonnes, ce n'est pas le message de l'évangile, ce n'est pas le christianisme. Les cinq colonnes sont celles-ci. La divinité de Jésus-Christ, son incarnation, sa crucifixion, sa résurrection et son retour personnel. Ce sont les cinq vérités fondamentales du christianisme. Là où une révélation ou quelque chose commence à mettre en doute un de ces cinq points, alors c'est une nouvelle doctrine que nous devons absolument rejeter. Amen. Alléluia. Il faut que j'aille un peu plus vite. Quatrièmement, la prophétie n'est pas de la divination. Ça, je crois qu'il faut qu'on le dise aussi. Parce que certaines personnes pensent qu'ils ont un don de prophétie, alors que c'est la divination. Et la divination, bien sûr, vient lorsque certaines personnes ont trempé dans les choses occultes, dans le spiritisme et dans tout cela. Et beaucoup de personnes, et même ces gens, ces spirites et tout cela, pensent avoir un don de prophétie. C'est la confusion totale. Quelle différence entre un don de prophétie et la divination? C'est que la différence est celle-ci, c'est que l'un soumet son don à l'obéissance à la parole de Dieu, tandis que l'autre est rebelle à la parole de Dieu. Il manifeste quelque chose, mais dans une rébellion à la parole de Dieu. Et toute personne rebelle à la parole de Dieu et qui essaye de manifester quelque chose ne vient pas de Dieu. Amen. Ceci est très très important. Et un cinquième point maintenant. La prophétie ou le don de prophétie n'est pas une preuve que cette personne est sanctifiée. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit? Ah bon? Oh là là, mais ça va loin, ça. Qu'est-ce que vous nous dites? Moi, j'ai cru qu'avec un tel don... Oh là là, spécialiste.
1 Corinthiens 13, verset 2. Lisons un petit peu ce passage, je crois qu'il est bon de le lire et de le relire. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, vous voyez, vous pouvez avoir le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Autrement dit, une personne peut manifester le don de prophétie sans avoir de l'amour dans son cœur et ne pas être sanctifié du tout. Et beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont un don de prophétie, oh, il n'y a plus rien à revoir dans leur vie. Vous pensez bien que si Dieu m'a donné ce don, c'est que tout est en ordre dans ma vie. D'où vient l'orgueil spirituel? D'où vient que les plus grandes difficultés dans l'Église proviennent de personnes qui ont les dons spirituels? Pourquoi? Parce qu'ils se vantent de leurs dons. Ils pensent qu'ils ont mérité leurs dons. Ils pensent qu'à cause de leurs dons, ils sont plus mûrs que les autres. Ils sont supérieurs aux autres. Ils jugent les autres. Ils critiquent les autres. Ils ont complètement ignoré que lorsque Dieu donne des dons, ce n'est pas parce que nous les méritons, mais que c'est une grâce. Alléluia. Et quand nous réalisons que c'est une grâce et que c'est un don, alors il n'y a plus de gloriole personnelle. Mais nous pouvons manifester un don et être terriblement charnels, mes chers amis. Mais bien sûr, cela ne nous sert de rien, dit l'apôtre. Alors, avez-vous bien entendu cela? Ceci est très important. Alors maintenant, voyons les 7 buts. 7 buts et test de la vraie prophétie. Premièrement, la vraie prophétie doit édifier l'Église. Notez cela, la vraie prophétie doit édifier l'Église. 1 Corinthiens 14, le verset 3, nous dit ceci, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Il faut que nous ayons cette pensée bien en nous. Le don de prophétie n'est pas pour s'enorgueillir, n'est pas pour montrer sa voix lorsque nous parlons, n'est pas pour se vanter, pour juger, pour critiquer les autres. Le don de prophétie a un but, édifier l'Église. Édifier l'Église. Et l'apôtre montre 3 domaines, je veux dire 3 précisions. Premièrement, il dit, au contraire, celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Que veut dire le mot édifier? Le mot édifier dans le texte original veut dire ceci, veut dire charger. Comme je l'ai dit une fois, il est dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est le même mot. Et le mot édifier veut dire dans le texte original, le mot le plus près veut dire charger. Autrement dit, comme si on chargeait une batterie. Celui qui parle en langue se charge comme une batterie. Et celui qui prophétise édifie. Autrement dit, il charge les chrétiens, il les charge comme une batterie. Amen. Si bien que lorsque, après avoir donné une prophétie, ceux qui vous écoutent doivent avoir plus de puissance. Vous ne devez pas les dégonfler, mais les gonfler. Mais certaines fois, quand on entend une prophétie, on est complètement à plat. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien du tout. C'est terrible de donner une prophétie quand on n'est pas branché soi-même. Alors, premièrement, pour édifier, autrement dit, pour charger les autres. Voyez-vous la puissance qu'il y a dans la prophétie? Avons-nous pensé à cela? Combien nous en avons besoin? Combien d'entre vous ici, vous êtes à plat? Vous êtes à plat? Il y a beaucoup de problèmes, vous êtes à plat. Et la prophétie peut venir comme une puissance qui vient nous charger et nous regonfler. Alléluia! Un mot de la part du Seigneur, une prophétie peut relever quelqu'un.
C'est extraordinaire cela. Alléluia. C'est pourquoi ne méprisons pas les prophéties, mais examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Alléluia. Un mot du Seigneur peut relever complètement un enfant de Dieu. Il réalise par là que Dieu l'aime personnellement. C'est une puissance merveilleuse, la prophétie, lorsqu'elle est faite dans cet esprit-là. Un deuxième but, celui qui prophétise, édifie, exhorte maintenant. Le mot exhorter dans le texte grec veut dire appeler près d'eux. Autrement dit, il semble que là, il y a un autre sens. C'est que la personne ou le chrétien semble s'être égaré un petit peu et le Saint-Esprit essaye de l'appeler près de Jésus. Alors l'exhortation à ce sens-là, reviens à ton sauveur. Et combien de fois nous entendons des appels ? Reviens, je t'exhorte, reviens, ne reste pas là où tu es. Et tu es appelé à venir près de Jésus, ne reste pas loin de lui. Tu es une brebis du Seigneur, approche-toi. Voyez-vous ? Ce n'est pas des paroles qui éloignent du berger, mais qui nous rapprochent de lui. Alléluia! Si celui qui prophétise avait toujours ses pensées en lui, alors sa prophétie serait constructive. Elle ne disperserait pas, mais au contraire, elle attirerait toujours à Jésus. Alléluia! Et beaucoup parce qu'ils ignorent cela. Même s'ils ont un don de prophétie, leurs prophéties sont limitées. Leurs prophéties n'atteignent pas le but parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais si nous connaissons exactement le but de la prophétie, alors nos paroles auront beaucoup plus de sagesse et atteindront davantage leur but. Alléluia. Ne l'oubliez jamais, ce n'est pas pour disperser, c'est pour appeler près d'eux. Alléluia. Près de Jésus. Édifier, exhorter et consoler. Et savez-vous ce que veut dire le mot consoler dans le texte grec ? Il veut dire encourager. Consoler quelqu'un, dans le texte grec, c'est l'encourager ou alors plaider sa cause, plaider notre cause. Le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé, non pas d'être condamné, non pas d'être accusé. Que de prophéties, n'est-ce pas, qui accusent, qui condamnent, qui rejettent. Mais alors on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ces choses ? Ça n'a aucun sens, c'est absolument pas une prophétie biblique. La prophétie du Nouveau Testament console, autrement dit encourage le peuple de Dieu. Il le relève, il est là toujours pour lui dire, relève-toi. Elle est toujours positive et jamais négative. Amen. Il peut y avoir bien sûr des éléments négatifs dans la prophétie, mais elle termine toujours par le positif. Toujours, voilà ce qui ne va pas, bien sûr, ça ne va pas, mais relève-toi, le Seigneur est là, il plaide ta cause, il n'est jamais rejeté, une prophétie ne rejette jamais définitivement quelqu'un, le Saint-Esprit est toujours là pour plaider la cause de cette personne, même s'il est tombé, le Saint-Esprit est là, il veut le consoler, il veut l'encourager, il plaide sa cause, n'est-ce pas extraordinaire ? Alléluia ! Voilà donc le premier but de la prophétie, édifier l'Église. Si nous comprenons la véritable signification de la prophétie, alors je vous assure, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Quel ministère ! Les chrétiens seraient littéralement renouvelés lorsqu'ils viendraient dans l'Église. Mais malheureusement, quand on entend certaines prophéties, on a envie de sortir par la fenêtre ou par la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un marteau quelque part, il y a bang, 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 bang. Oh là là. On se demande à qui on a affaire. Mais ça n'a rien à voir avec le don de prophétie. Le don de prophétie, maintenant, nous allons voir le deuxième but ou le deuxième test. Une vraie prophétie doit être en accord avec les Écritures. Amen. Toute prophétie doit être en accord avec les Écritures. Ne commencez pas à avoir des révélations qui n'ont rien à voir avec les Écritures ou avec l'esprit des Écritures. Cette prophétie ne vient pas de Dieu.
Romains chapitre 12, verset 6. Voilà le passage en question. Romains 12, 6. Voici ce qu'il est dit. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Avez-vous bien compris? Autrement dit, le don de prophétie doit être en accord avec la foi que nous professons. Autrement dit, avec les Écritures. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Toute Écriture, voyez-vous, la parole est inspirée par le Saint-Esprit. La parole et l'Esprit vont toujours ensemble. L'Esprit ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Jamais, jamais, jamais. Une révélation qui dépasse les Écritures, qui contredit les Écritures, qui critique les Écritures, n'est pas une révélation, n'est pas une vraie prophétie. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Et celui qui prophétise doit constamment se nourrir de la parole. Si bien que lorsque Dieu lui donnera un message, et que cette parole de Dieu est déjà en lui, sa prophétie sera riche. Alléluia. Sera profonde. Plus quelqu'un a la connaissance de la parole, plus il a une révélation de l'Esprit, plus sa prophétie sera profonde. Sera efficace. C'est pourquoi celui qui exerce le don de prophétie doit bien lire sa Bible, bien la méditer. Et lorsque Dieu lui donnera une révélation, elle portera un fruit extraordinaire. Alléluia! Plus vous êtes rempli de la parole, plus vous serez rempli du Saint-Esprit. Et plus votre prophétie portera et pénétrera et touchera les cœurs. Mais très souvent, une prophétie qui n'est pas en accord avec les Écritures ou qui n'est pas inspirée de la parole, c'est une prophétie qui c'est très superficielle. Et voilà pourquoi plusieurs prophéties nous passent par-dessus la tête, il n'y a rien qui pénètre. Parce qu'elle n'est pas inspirée aussi de la parole. Celui qui prophétise n'est pas vraiment nourri de la parole de Dieu. Et ce qu'il dit est très souvent en désaccord même avec ce qui est écrit. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas attester cela. Et ces choses passent par-dessus notre tête. Alors, toute vraie prophétie doit être en accord avec les Écritures. Amen. Celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le Saint-Esprit vous conduit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia. Troisièmement, une vraie prophétie glorifie Jésus-Christ. Ah, ça c'est un merveilleux test. Glorifie Jésus-Christ. Jean chapitre 16, versets 13 et 14. Je lis pour vous. Jean 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Il me glorifiera. L'esprit prophétique glorifie Jésus-Christ. Jamais un homme, jamais une personne, jamais une église et jamais une doctrine. Notez bien cela. Jamais une doctrine, jamais une église, jamais une personne. Toujours et toujours Jésus-Christ. Alléluia. Plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus vous êtes rempli de Jésus. Moins vous parlez de Jésus, moins vous êtes rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la vraie prophétie exalte Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire cela? C'est pourquoi là aussi il y a un but et aussi un test. Parce que bien souvent, dans les prophéties, nous entendons ceci. Oh là là, je t'appelle à un ministère extraordinaire. À partir de ce jour, tu auras le ministère le plus puissant de l'univers entier. Et si tu obéis à ma voix, tu verras. Tu feras des choses extraordinaires. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Où on va? Et tu sais, comme toi, il n'y en a pas deux. Tu es choisi. Tu es quelqu'un de choisi. Tu es unique. La révélation que je te donne, tu ne dois la dire à personne. Oui, oui, l'ennemi vient très souvent comme ça. Mais que de livres j'ai lu, que de prophéties j'ai lu. Où l'ennemi vient ainsi séduire les gens. Et certaines personnes prêtent une oreille attentive à cela. Oulala, moi un élément comme ça. Oulala. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois obéir à personne. Si tu m'obéis, ce sera formidable. Ils oublient le test d'une vraie prophétie. N'est jamais là pour glorifier l'homme et la chair, mais pour glorifier Jésus-Christ. Si une prophétie vient glorifier l'homme, mettez-la de côté, mes chers amis. Mais quand elle vient pour glorifier Jésus, elle vient du Saint-Esprit. Amen. Quatrièmement, une vraie prophétie produit des fruits de sainteté. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui donne la prophétie, alors elle produit des bons fruits. Non seulement dans la vie de celui qui la donne, mais aussi dans la vie de ceux qui écoutent. Ça, c'est un test. Et nous allons lire maintenant. Jésus a bien dit dans Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, « Vous les reconnaîtrez alors. » Et dans Romains 14, 17, il y a trois fruits qui sont mentionnés. Romains 14, 17, trois fruits. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, toute vraie prophétie produit en nous ces trois fruits. D'abord la justice, c'est-à-dire une vie juste avec Dieu et avec les hommes. Et ensuite, parce que nous vivons cette vie juste, cela produit la paix et la joie. Beaucoup de personnes ont soi-disant la paix et la joie, mais il n'y a pas de justice. C'est dans une vie souillée, dans l'injustice, dans l'iniquité. C'est par là que vous voyez, quand une personne a soi-disant la paix et la joie et qu'elle vit dans le péché, alors cela ne vient pas de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice. D'abord une vie sainte, n'est-ce pas vrai? Et cette sainteté produit la paix et la joie. Voilà ce qu'une prophétie apporte. Elle nous conduit à vivre dans la sainteté. Elle nous exhorte toujours à marcher de progrès en progrès à l'image du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Et une prophétie qui ne produit pas cela, qui ne produit pas des fruits de sainteté, ce n'est pas une vraie prophétie. Dieu nous conduit toujours dans le chemin qui monte, dans le chemin pur. Alléluia! Et de même, la personne doit manifester des bons fruits, celle qui prophétise. Cinquièmement, la vraie prophétie doit s'accomplir. C'est vrai. Quand on a une vraie prophétie, et quand il y a, par exemple, un élément de prédiction dedans, elle doit s'accomplir. Sinon, ce n'est pas une vraie prophétie. Deutéronome 18, lisons dans Deutéronome 18, versets 20 et 22, je lis pour vous maintenant, Deutéronome 18, versets 20 et 22. « Mais le prophète qui aura de l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. » Voyez-vous, le test là, d'une prophétie, d'une vraie prophétie, c'est que elle s'accomplit. C'est tout simple. Mais alors vous allez me dire une chose maintenant, il y a certaines prophéties qui s'accomplissent, et cependant, qui ne sont pas de Dieu. Alors nous allons voir maintenant un deuxième passage. Dans les Actes des Apôtres, par exemple. Parce que toute prophétie ne vient pas toujours de Dieu, justement. Il peut y avoir un autre don qui se manifeste. C'est pour ça que dans l'occultisme, dans le spiritisme, on entend ces choses. Oui, mais ça arrive. La carte tourmentienne un tel. Et puis il y a le spirit un tel qui m'a dit ceci et c'est arrivé. Et les gens pensent que parce que ça s'est accompli, que ça vient de Dieu. C'est pas parce qu'une chose s'accomplit qu'elle vient forcément de Dieu. Comment le savoir? Alors maintenant, acte 16. Lisons acte 16. Il y a encore un test. Voyez-vous combien nous devons être au courant et ne pas accepter n'importe quoi et n'importe qui? Acte 16, et à partir du verset 16. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, autrement dit un esprit de divination, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Vous rendez compte? Elle disait la vérité. Ce qu'elle disait, c'était la vérité. Et cependant, elle avait un esprit de Python. Voyez-vous, quelqu'un même peut vous dire une révélation, la vérité, et cependant être animé par un mauvais esprit. Et Deutéronome, chapitre 13, nous montre autre chose, justement dans cette même pensée. Deutéronome 13, les versets 1 à 5, lisons cela, c'est très important. Deutéronome 13, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, écoutez bien maintenant, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons auprès d'autres dieux. » Voyez-vous la séduction là? Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Voyez-vous ici, le prophète et le songeur à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il conduit le peuple à s'éloigner du Seigneur et de l'Éternel. Autrement dit, il peut y avoir des révélations, des choses qui s'accomplissent, mais derrière cela, il y a un esprit de séduction qui vous éloigne du Seigneur et de sa parole. Et par là, vous saurez que cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi ces choses dans le domaine spirit, dans le domaine occulte, combien de personnes ont eu, soi-disant, des accomplissements dans certaines prophéties, certaines voyances. Mais ces personnes qui ont cru ces mensonges de l'ennemi et pensant que cela venait de Dieu, petit à petit, ces personnes se sont éloignées du Seigneur. Elles se sont éloignées de sa parole. Si bien qu'à un moment donné, non seulement elles se sont éloignées, mais elles sont même devenues rebelles au Seigneur et à sa parole. C'est pour dire qu'il y avait là derrière un esprit qui séduit et qui éloigne de Dieu. Donc tout ce qui s'accomplit ne vient pas forcément de Dieu. Vous êtes d'accord? Il faut voir l'esprit qui est derrière. Et c'est un esprit qui égare du Seigneur. Mais tout esprit qui glorifie Jésus, qui nous attache à sa parole, alors à ce moment-là, nous savons que cela vient de Dieu. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Et maintenant, une sixième preuve ou un sixième but d'une vraie prophétie. Une vraie prophétie apporte la liberté et non l'esclavage. La vie et non la mort. Amen. Je répète, une vraie prophétie apporte la liberté et non l'esclavage. La vie et non la mort. Romains 8, 15 nous dit ceci. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Par là, vous savez, si vraiment c'est une vraie prophétie, quand la prophétie libère quelqu'un. Mais quand la prophétie met la crainte sur quelqu'un, rend esclave la personne, soit de celui qui prophétise, ou soit de ses péchés, alors à ce moment-là, cela ne vient pas de Dieu. La vraie prophétie, elle libère. Amen. Elle libère. Tandis qu'autrement, nous sommes esclaves. Et un esclave, il est forcé de faire certaines choses. Il est dans la crainte. Et bien souvent, en entendant certaines prophéties, nous sommes dans la crainte. Ou certaines prophéties même nous forcent à faire quelque chose. Voyez-vous, là derrière, il y a un esclavage. Il y a quelque chose qui est forcé, qui est imposé. Et tout cela ne vient pas du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est un gentleman. Alléluia. Ce qu'il a à dire, il le dit, mais il laisse toujours l'autre libre. Tandis que ce qui vient de l'ennemi est toujours pour imposer et pour mettre la crainte. Attention, si tu n'obéis pas, ça va très mal aller pour toi. Et ça met la crainte dessus. Tu dois obéir, absolument. Tu dois. C'est le seul chemin. Si tu n'obéis pas, ça ne va pas. Tu dois obéir. Dieu t'aime plus. Autrement, ça va. Voyez-vous, en entendant certaines choses, la crainte vient sur vous. Ça, c'est la tactique de l'ennemi. De mettre la crainte et de rendre les gens esclaves. Tandis que le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il enlève cette crainte et libère. Alléluia. C'est-à-dire qu'il met toujours la personne devant un choix. Choisis la vie. J'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Voyez-vous, il propose toujours à la personne. Il n'impose jamais rien. Et ceci est très important. Donc la vraie prophétie libère et ne rend pas esclave. Elle donne la vie et non la mort. 2 Corinthiens 3, 6. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je répète, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Autrement dit, quelqu'un qui veut vraiment apporter la vie dans sa prophétie, elle doit être cette personne remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et ceci est important. Plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus votre prophétie apportera la vie. Vous pouvez avoir un don de prophétie et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Et manifester un don de prophétie sans être rempli du Saint-Esprit. Et ce don n'apporte pas la vie, au contraire, apporte la mort. Apporte un froid sur nous, sur l'auditoire. Mais celui qui a un don de l'esprit, un don prophétique, doit se maintenir dans l'esprit. Alléluia. C'est la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie. Il doit constamment être rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'il parlera, alors son don, oui, du Saint-Esprit, apportera la vie. Alléluia. Et jamais la mort. Il y a l'esprit qui donne la vie, il y a aussi l'amour qui donne la vie. Vous devez prophétiser avec amour. Si j'ai le don de prophétie et que je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Celui qui prophétise doit aimer ceux auxquels il s'adresse. Avez-vous bien compris cela? Celui qui prophétise doit aimer ceux auxquels il s'adresse. Il doit être rempli d'amour. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous devez aimer ceux auxquels vous vous adressez. Alléluia. Et plus vous êtes rempli d'amour, plus votre prophétie touchera l'autre et pénétrera dans son cœur et lui apportera la vie et la vie en abondance. Alléluia. Mais que de prophéties sans amour. Que de prophéties sans amour. Avant d'apporter quelque chose, dites, Seigneur, est-ce que j'aime ceux auxquels je m'adresse? Est-ce que je les aime vraiment? Alors, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Soyez renouvelés dans l'amour. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit et d'amour, alors vous pouvez y aller. Vous apporterez la vie. Alléluia! Et votre don sera une puissance extraordinaire qui édifiera, exhortera et consolera. Que Dieu soit béni. Et le septième test maintenant, ou le septième but d'une vraie prophétie, c'est que nous en avons la confirmation dans le cœur. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voyez-vous, le Saint-Esprit qui est en nous est un esprit de vérité, n'est-ce pas vrai? Et quand une prophétie est donnée qui ne correspond pas à la vérité, automatiquement en vous, il y a une réaction. Le Saint-Esprit ne peut pas dire oui et amen à quelque chose qui ne vient pas du Saint-Esprit. Si bien qu'il y aura soit la confirmation dans votre cœur si ça vient de Dieu, soit alors une fermeture en vous qui dit « Non, cela ne vient pas de Dieu. Je ne peux pas accepter. Il y a quelque chose qui ne joue pas là derrière. J'examine toute chose et je retiens ce qui est bon. » Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en vous est là pour discerner quelle est la voie de Dieu et surtout pour retenir ce qui est bon. Amen. Alors, mes chers amis, ne méprisons pas les prophéties, n'éteignons pas l'esprit, mais examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Une prophétie ne sera jamais parfaite, parce que dans le don de prophétie, il y a toujours le divin et l'humain. Plus l'humain sera consacré à Jésus, plus le divin sera manifesté. Alléluia! C'est pourquoi nous devons examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, ne pas tout accepter et ne pas tout rejeter systématiquement. Car dans la prophétie, je le répète, il y a un ministère extraordinaire pour vous charger de puissance, pour vous attirer à Jésus, vous appeler près de lui, et pour vous encourager et plaider votre cause. Alléluia! Aspirez aux dons spirituels, recherchez la charité, mais surtout, aspirez aux dons de prophétie. Car celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia! C'est pour édifier l'Église. C'est pour leur faire du bien. Voilà pourquoi est le don de prophétie que le Seigneur nous donne de l'exercer dans la puissance du Saint-Esprit et avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Et Dieu sera glorifié dans nos vies et dans l'Église. Et que toute la gloire lui en revient. Alléluia. Courbons-nous quelques instants. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te louons pour ta parole qui est la vérité. Tu as donné des dons à ton Église et nous ne voulons point les négliger. Et nous voulons connaître les buts, la signification, la portée et aussi les dangers. Afin que non seulement nous ayons la pensée du Seigneur, mais que nous connaissions aussi les ruses du malin. Ainsi, Seigneur, ce soir nous nous livrons à toi, afin que nous aspirions davantage aux dons de prophétie, que nous examinions toutes choses et que nous retenions ce qui est bon, et que le Saint-Esprit ne soit pas éteint au milieu de nous, mais au contraire canalisé pour une plus grande manifestation de puissance. Car ton peuple a besoin d'être édifié, ton peuple a besoin d'être exhorté, ton peuple a besoin d'être consolé, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous ainsi à accomplir notre ministère et à accomplir l'œuvre que tu nous demandes avec l'Esprit Saint et l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Restons dans la prière quelques instants. Ayons de courtes prières. Selon que le Seigneur nous a parlé, parlons-lui maintenant. Alléluia.